Radio Okapi. Grande interview.
Dans les années 50, la Belgique n'envisageait nullement d'accorder au Congo belge l'indépendance en 1960. Elle s'inscrivait toujours dans la logique de la continuité. C'est ce qu'a révélé le professeur Bob Kabamba, professeur de l'Université de Liège en Belgique et coordonnateur de la cellule politique en Afrique centrale. Ce sont les événements du 4 janvier 1959 qui précipitèrent l'indépendance de la RDC, précise-t-il, en explique que le Parti socialiste belge exploiterait ce dossier relatif à la répression des manifestants congolais. Et dans sa démarche, il est soutenu par le Parti communiste. Ces deux formations se mobilisèrent pour l'indépendance du Congo, ce qui poussera le gouvernement belge à accepter d'accorder cette indépendance. Pour revenir sur cette page d'histoire politique de la RDC, grande interview reçoit dans ce numéro le professeur Bob Kabamba. Dans cet entretien avec Guy Maté, le professeur Bob Kabamba revient sur les péripéties de l'histoire politique du Congo depuis son accession à l'indépendance. Cette émission vous est présentée sous la supervision de Jean-Marc Matouaki grâce au concours de Guy Maté et Michel Kifindangoy. Merci de rester à l'écoute.
Bonjour professeur Bob Kabamba. En 1956 sont publiés trois manifestes, à savoir Conscience africaine, la déclaration de l'épiscopat du Congo belge, les contre-manifestes. Les auteurs de ces publications exigent l'émancipation et les droits des Congolais de prendre part à la gestion des affaires publiques. Professeur, l'édition de ces trois publications constitue-t-elle l'élément déclencheur de l'éveil de conscience par rapport à la nécessité pour les Congolais d'obtenir leur indépendance? Est-ce qu'on peut dire que c'est à ce moment-là que les Congolais comprennent l'importance de devenir indépendants?
Le sentiment d'indépendance a toujours animé les Congolais depuis l'arrivée des colonisateurs belges, mais la plupart des résistances à cette colonisation ont été réprimées soit dans le sang, soit de diverses façons. Néanmoins, c'est que vous soulignez un moment important qui est 1956, c'est qu'il faut savoir que ces trois manifestes ont été publiés à la suite justement de la publication du rapport du plan Van Bissen qui prévoyait l'indépendance, l'émancipation du Congo dans les 30 ans à venir. Donc, en réponse à ce rapport de Van Bissen, donc on a publié ces trois manifestes. Et vous devez savoir que l'un des manifestes a été déjà inspiré par l'Église catholique, puisque l'Église catholique avait bien déjà senti que le courant était en train de changer. Et l'Église catholique va toujours dans le sens du courant pour ne pas perdre ses privilèges. C'est ainsi qu'elle va essayer d'encadrer ce mouvement d'émancipation et de demande d'indépendance.
Entre 1957 et 1959, il y a trois événements majeurs qui se succèdent. Les Congolais votent pour la première fois pour leur bourgmestre en 1957. Et le 4 janvier 59, suite à l'annulation d'un meeting de la BACO, les émeutes éclatent dans la ville de Kinshasa et sont réprimées dans les sangs, bilan une centaine de morts. En octobre 1959, le gendarme ouvre le feu sur une manifestation du MNC, bilan une trentaine de morts. Si les historiens sont d'avis que la succession de ces événements précipitèrent l'indépendance du Congo belge, ils sont aussi d'avis que même si ces événements ne s'étaient pas produits, la Belgique aurait accordé l'indépendance au Congo belge en 1960. Professeur, quel était l'intérêt pour la Belgique d'octroyer au Congo belge l'indépendance en 1960 avec ou sans ces événements?
Merci pour la question. Donc, vous devez comprendre que de toute façon, pour la Belgique, il n'était pas encore question d'indépendance dans les années 50. Hein. Même si on a dit tout à l'heure qu'il y avait déjà les consciences africaines qui avaient déjà été publiées. Mais ici, on était du côté belge, en tout cas, on est toujours dans la continuité du Congo belge qui doit continuer et persister. Le plan Van Bissen, lui, a parlé justement de 30 ans, c'est-à-dire que le Congo devait être indépendant en 1985, à partir du moment qu'il a écrit son rapport. Et alors, quand on regarde bien de manière rétrospective les événements du 4 janvier, ce sont ces événements-là qui ont précipité au fait l'aboutissement de la lutte pour l'indépendance. Et cet événement doit être lié et étudié dans le contexte belge. C'est-à-dire que lorsque l'on regarde le nombre de morts qu'il y a eu au Congo par rapport à d'autres morts dans d'autres pays, ce n'est pas aussi important que dans d'autres pays. Mais néanmoins, c'est que le Parti socialiste en Belgique va reprendre ce dossier, donc le dossier de la répression des Congolais, pour en faire un problème de politique belge. Et en faisant un problème des politiques belges, on arrive à précipiter justement à ce qu'il y ait ces indépendances. Les socialistes et les communistes vont se mobiliser pour l'indépendance et cette mobilisation va pousser le gouvernement Esquès à pouvoir, de manière très claire, accepter qu'il puisse y avoir indépendance. Et la décision d'ailleurs d'accorder l'indépendance au Congo avait déjà été prise bien avant la table ronde. Autre fait aussi, c'est qu'il faut se rendre compte que en fin des années 50, début des années 60, le Congo devient déficitaire. Et donc, dans le cadre de la politique des finances publiques belges, avoir une colonie de cette importance commence à peser lourdement dans l'économie belge. Et donc, la solution pour eux, c'est d'accorder l'indépendance, on va dire, théorique, mais tout en gardant quand même le rouage économique.
Vous êtes à l'écoute de Radio Okapi. Grande interview reçoit dans ce numéro le professeur Bob Kabamba. Interrogé par Guy Maté, notre invité revient sur les grands faits de l'histoire politique de la RDC depuis son accession à l'indépendance.
Aux élections législatives de 1960, le MNC Lumumba remporte 65% des sièges au Parlement et par conséquent, Lumumba devient Premier ministre et Kasavubu Président de la République avec un rôle symbolique, l'effectivité des pouvoirs étant entre les mains du Premier ministre. Patrice Emery Lumumba privilégiait une vision nationale du Congo, contrairement aux Belges et à certains Congolais qui prônaient plutôt le fédéralisme. Professeur, la cohabitation entre d'un côté les unitaristes et de l'autre des fédéralistes n'était pas déjà un mauvais départ. Est-ce que avec ça, il était possible d'éviter les conflits qui avaient éclaté quelques jours plus tard et qui avaient débouché sur la sécession du Katanga?
La question du fédéralisme et de l'unitarisme doit être remise dans son contexte. Il faut bien se rendre compte qu'il y a deux idéologies qui sous-entendent le fédéralisme et l'unité centrale. C'est-à-dire que si vous gagnez par rapport aux élections qui ont eu lieu, vous devez vous rendre compte qu'on est en train de réfléchir chacun pour soi, tout comme on parle même des élections actuellement. De toute façon, l'ethnicisme politique a commencé depuis ce moment-là. Tout le monde chez soi à la maison, quand on dit tout le monde chez soi à la maison, c'est-à-dire que ceux qui veulent être élus doivent rentrer dans leur village pour se faire élire dans leur village. C'est ainsi qu'on va voir qu'il va y avoir deux vainqueurs, au fait, aux élections législatives. D'une part, on a la tendance lumumbiste, qui est la tendance unitariste, avec une vision unitaire, et d'autre part, vous avez aussi les fédéralistes, c'est-à-dire ceux qui sont ancrés localement. Ancrés localement, ça veut dire qu'ils ont un ancrage provincial. Et c'est le cas de ces élections-là, vous allez vous rendre compte que le MNC n'a pas gagné les élections au Katanga, c'est plutôt la CONACAT qui a gagné en tant que tendance fédéraliste, déjà en ayant une tendance fédéraliste pour dire, ben oui, nous sommes élus chez nous et nous allons développer chez nous. Et que c'est que la vision idéologique de Lumumba ne collait pas. Mais cette logique de pouvoir rentrer chez soi pour y être élu va malheureusement rester. Alors, lorsqu'on regarde les élections, vous allez vous rendre compte que Lumumba, par exemple, lui n'a pas été élu dans le Sankuru. Il a été élu dans une autre circonscription que son fief. Donc il avait une autre vision que la vision que l'on avait à l'époque, et d'ailleurs que Mobutu va reprendre même à son compte après l'indépendance et sa prise de pouvoir, pour arriver à imposer un État unitaire et essayer, dans la mesure du possible, à mettre fin à ce qu'on appelle le localisme, c'est-à-dire que chercher chaque fois à avoir ses dirigeants qui sont des dirigeants de chez soi. Je suis de tel village, je dois être dirigé que par quelqu'un de mon village.
En 1960, le pays accède à son indépendance. Cependant, on constate que les gangs des entreprises sont restés belges et les officiers de la force publique sont tous belges. Mais on dit que le Congo est devenu indépendant. C'est quoi le dessous des cartes, professeur? C'est quoi l'enjeu pour la Belgique en octroyant au Congo belge une telle indépendance?
Concernant l'armée, il faut bien se rendre compte de quoi on parle. Lorsqu'on parle d'une armée, c'est-à-dire que l'on ne constitue pas une armée du jour au lendemain, on ne devient pas officier du jour au lendemain. Il y a un commandement unique qui avait été établi dans la force publique, il y a toute une hiérarchie militaire qui avait été établie depuis plusieurs années, qui était ancrée et qui était celui-là. Je vous expliquais que la décolonisation a été précipitée. Et donc, il n'y avait pas encore de véritables officiers qui étaient en mesure de pouvoir prendre la relève des Belges. Alors, du côté congolais, indépendance voulait dire que les Belges partent et les Congolais reprennent la place des Belges. Or, dans l'entendement des Belges, ce n'était pas les Belges partent, non. C'est progressivement, on va commencer à africaniser l'armée, la force publique congolaise. Mais cette africanisation pour les Congolais traînait trop et on avait toujours l'impression que, comme d'ailleurs Louis Hansens lui-même l'a écrit sur le tableau le 4 juillet, avant l'indépendance égale après l'indépendance. Et alors, pour les militaires congolais, ça voulait dire que, ben non, rien n'a changé. Et si rien n'a changé, ça veut dire que le blanc reste toujours l'officier et le Congolais reste toujours le subalterne. Et cette situation était insupportable. Par ailleurs aussi, il ne faut pas non plus oublier que du côté belge, l'indépendance était une indépendance politique, pas l'indépendance économique. Il devait maintenir le Congo sous le joug de la Belgique, c'est-à-dire que tous les militaires devaient rester, les fonctionnaires devaient rester, les magistrats devaient rester, travailler pour ce nouveau pays et que progressivement, ils espéraient continuer à avoir de liens très forts et continuer à exploiter le Congo.
Entre 1960 et 1965, le pays connaît une succession de crises politiques et de conflits armés qui se traduisent par la sécession du Katanga avec Moïse Tshombe et du sud de Kasaï avec Albert Kalonji. Si bien qu'on peut se demander si au-delà de l'émancipation que réclamaient les Congolais, si les Congolais ne visaient pas autre chose et aussi si la Belgique a été sincère en accordant au Congo belge son indépendance.
Justement, la sécession katangaise et même le sud Kasaï est l'illustration parfaite que le Belge ne voulait pas justement donner l'indépendance totale au Congo. C'est simplement une indépendance politique et que progressivement, tout l'appareil, c'est-à-dire l'appareil économique, l'appareil sécuritaire, l'appareil administratif, devait rester aux mains des Belges. Or, lorsque les émeutes éclatent et qu'on pourchasse les Blancs partout au Congo, et surtout, il va y avoir ce qu'on appelle les viols des femmes blanches par les militaires congolais, qui va déclencher une espèce de scandale au niveau de la Belgique, et eux vont de manière très claire dire que non, on abandonne ce pays, et on l'abandonne à Lumumba, Lumumba qui est considéré comme un communiste à ce moment-là. Et donc, la Belgique va se replier sur le Katanga, il n'y avait pas que le Katanga, il y a aussi le fait qu'ils ont voulu faire la Mutrini et prendre la province du Bas-Congo, et notamment le port de Matadi, dans l'espoir justement d'arriver à asphyxier le nouveau pays Congo, notamment lorsque vous avez le Katanga et que vous avez le port d'entrée Matadi, ben vous asphyxiez le gouvernement Lumumba, et sachant que les caisses de l'État congolais étaient complètement vides, puisque comme je vous l'ai expliqué, la Belgique savait déjà que le Congo était déficitaire, et lorsque il y a eu la deuxième table ronde économique et que toutes les dettes du Congo devaient être congolaises et pas belges, et ça, c'est déjà dès le départ pour montrer clairement que la Belgique, elle, voulait juste une indépendance politique, mais que le Congo devait rester dépendant de la Belgique.
Vous venez de nous rejoindre en cours d'émission sur Radio Okapi. Grande interview reçoit dans ces numéros le professeur Bob Kabamba de l'Université de Liège. Dans cet entretien avec Guy Maté, le coordonnateur de la cellule politique en Afrique centrale, revient sur les enjeux autour de l'indépendance de la RDC.
Le 24 novembre 65, c'est le deuxième coup d'État de Mobutu. Il instaure le monopartisme et à son actif la consolidation de l'unité nationale, la pacification du pays et l'organisation des services de renseignement et des forces de sécurité. Et cependant, il gère les pouvoirs sans partage et réprime toute forme de contestation avant de revenir plus tard sur le multipartisme, donc le 24 avril 90. Et professeur, quel vise Mobutu en imposant un tel régime?
Mobutu, de manière très claire, a vu que pour pouvoir consolider son pouvoir, il avait le choix de pouvoir, ce qu'on appelle, continuer ce qu'on appelle l'État colonial. L'État colonial avait trois piliers. Il avait le pilier sécuritaire et administratif, qu'il avait déjà contrôlé depuis qu'il était chef de l'armée, et qu'il a terminé toutes les rébellions qui étaient au Congo. Ensuite, il y a le pilier, on va dire, économique, ce pilier économique, il va le nationaliser de manière progressive. Il va commencer d'abord par nationaliser l'Union minière pour le faire jeu commune, et ensuite après, il va faire ce qu'on appelle la zaïranisation pour arriver justement à avoir le contrôle sur le secteur économique. Ensuite, il y a la dimension du secteur de dernier pilier qui est l'Église. Et l'Église, comme vous le savez, depuis l'époque coloniale, contrôle le système éducatif, mais aussi le système de santé. Et donc, clairement, pour Mobutu, il était important pour asseoir son pouvoir, d'une part, d'avoir déjà l'appareil sécuritaire et administratif, mais aussi l'appareil économique, auquel il faut ajouter la dimension religieuse, tout en essayant de faire ce qu'il a appelé le recours à l'authenticité. Ça veut dire qu'on ne doit plus prier cette religion qu'on a venu l'imposer aux Congolais. Et donc, c'est tout ça pour lui permettre justement de pouvoir asseoir son pouvoir. Et ce pouvoir-là, pour l'asseoir, il ne veut pas qu'il puisse y avoir des contestations, tout comme à l'époque coloniale, il n'y avait pas de contestations. Lorsqu'il y avait des contestations, c'était une répression dure, ferme, massive, vis-à-vis de tous ceux qui contestaient l'ordre colonial. Et Mobutu donc va perpétrer cet ordre colonial sous son règne. Il va même faire croire que c'est lui qui a mis l'unité du Congo, que c'est lui qui a construit le nationalisme congolais. Et tout ça, normalement, avait déjà été construit bien avant, depuis Léopold II et même depuis la colonisation belge, puisque le Congo, comme vous le savez, le Congo a été créé par Léopold II. Ceux qui vivaient au Kivu n'avaient rien à voir avec ceux qui vivaient au Bas-Congo. Et c'est Léopold II qui a pu faire assez que ce pays soit devenu ce qu'il est, d'abord matériellement, et ensuite par rapport à la population qui y a vécu. Le colon belge, qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné une conscience nationale à ce pays, et que Mobutu n'a fait que consolider ce qui existait déjà. Et c'est ça aussi que lorsqu'à la fin des années 90, il n'a plus la capacité de pouvoir contrôler aussi bien l'armée que aussi bien le secteur économique, il se sent obligé de pouvoir lâcher du lest pour lui permettre de souffler et de ne garder que les secteurs sur lesquels il est fort.
Le 17 mai 1997, l'AFDEL accède au pouvoir à la faveur d'une rébellion avec comme porte-étendard Laurent Désiré Kabila. Le multipartisme est suspendu. Il encourage l'initiative locale et une économie véritablement congolaise. Il est convaincu que la RDC peut s'autosuffire à beaucoup d'égards. Pour faire que vise Laurent Désiré Kabila en préconisant cette logique autarcique?
Pour Laurent Désiré Kabila, il faut savoir ce que il a bien compris, que l'État congolais était un État tourné vers l'extérieur. L'État congolais est essentiellement constitué d'entreprises minières, de grosses entreprises de production de produits agricoles, mais qui sont destinées au marché mondial. Et pour lui, il veut essayer d'inverser la dynamique, c'est-à-dire essayer de faire en sorte que cette économie ne soit pas une économie extravertie, mais plutôt une économie tournée vers l'intérieur, un peu comme a fait la Chine dans les années 50 et 60 jusque dans les années 70. C'est-à-dire transformer l'économie qui était extravertie en économie intravertie. C'est-à-dire que les Congolais doivent travailler pour le Congolais et pas travailler pour l'extérieur. Mais cette œuvre, malheureusement, n'a pas fait aboutir jusqu'au bout. Elle est restée prématurée et n'a pas pu être concrétisée puisque, comme vous le savez, il a été assassiné.
En 2001, Joseph Kabila accède au pouvoir et à la faveur du dialogue intercongolais. Les élections sont organisées en 2006, en 2011 et en 2018. Pendant ces deux mandats, il fait l'apologie d'une politique de reconstruction du pays à travers les cinq chantiers et une philosophie appelée la révolution de la modernité. Et en 2018, Félix Tshisekedi accède au pouvoir. Il préconise notamment l'instauration d'un état des droits. Dans sa 60e année, la RDC expérimente de nouveau la démocratie prospère. Quels sont, à votre avis, les enjeux du rétablissement d'un cycle électoral régulier après plusieurs décennies de dictature?
Pour pouvoir avoir un cycle régulier de élections, il est important de pouvoir prendre en considération plusieurs dimensions. La première dimension qui est la plus importante, c'est celle de la pression populaire. C'est-à-dire que lorsqu'il y a élection, la population délègue, élit des personnes pour pouvoir le représenter au niveau de l'exercice du pouvoir. Et cette population, à un moment donné, il faut qu'elle ait la possibilité de ce qu'on appelle sanctionner ses représentants. Si elle a envie de gratifier les représentants qui ont bien travaillé, ils peuvent ne pas les sanctionner. Ceux qui n'ont pas bien travaillé peuvent être sanctionnés. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, il y a la question des politiques eux-mêmes qui se disent qu'ils doivent continuer à représenter. Et là, ceux qui sont au pouvoir vont vouloir s'y maintenir et ceux qui sont à l'opposition vont nécessairement essayer d'exercer le pouvoir, puisque quand on est politicien, c'est pour pouvoir exercer le pouvoir et non pas être dans l'opposition. Et ensuite, il y a bien sûr les contraintes légales, ces contraintes légales qui sont dans la Constitution et qui fixent effectivement les cycles et l'organisation de ces différents cycles électoraux. Et un dernier élément qui est important, c'est la pression de la communauté internationale qui peut s'ajouter donc à la pression populaire pour permettre ainsi d'avoir des cycles réguliers. Bien sûr, il ne suffit pas d'avoir des cycles et des pressions au niveau international pour réussir, mais encore, il faut avoir les moyens de pouvoir les organiser. Et avoir les moyens de pouvoir les organiser, ce n'est pas que les moyens financiers, il y a aussi les moyens sécuritaires, les moyens logistiques qui rentrent aussi en ligne de compte. Donc, ce sont ces différents éléments combinés qui peuvent permettre justement de consolider une démocratie et aussi de consolider les cycles électoraux qui peuvent donc donner à la population la possibilité de pouvoir choisir ou ne pas choisir ses représentants.
Merci, professeur Bokabamba.
C'est Radio Okapi.
Ainsi prend fin grande interview sur Radio Okapi. Cette émission vous a été produite grâce au concours de Guy Maté sous la supervision de Jean-Marc Matouaki. Je suis Michel Kifindangoy. Je prends rendez-vous avec vous pour un nouveau numéro samedi prochain à 10h05. Merci de rester fidèles à la fréquence de la paix. Au revoir.